Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 526 du podcast Touchdown Actu. Alain Mathey, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine NFL, la 7e en 2022, et nous allons débriefer les 3 plus grosses affiches, les 3 matchs qui nous ont semblé en tout cas le plus significatif dans cette 7e semaine. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Raphaël, on va parler encore des vieux.
Semblerait qu'il y ait un petit lien par rapport à la semaine dernière, effectivement.
Ben ouais, on va enfoncer Tom Brady et Aaron Rodgers. Alors on a eu des petits débats en interne, est-ce qu'on en fait trop sur eux, etc. Mais bon, on est d'accord que vu leur pédigré, c'est quand même notable ce qui se passe.
Oui, 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 c'est notable vu leur pédigré, parce que c'était également deux des équipes favorites en NFC. Et quand on voit la dynamique dans laquelle ces deux équipes sont, forcément ça remet un peu en cause tout ça.
Alors on commence avec les Panthers 21 et les Buccaneers 3. Comme prévu, bien évidemment, les Panthers, qui ont perdu Christian McCaffrey pendant la semaine, ont battu les Buccaneers 21-3. On l'avait totalement vu venir, évidemment. Hein. Les Buccaneers n'ont pas perdu un seul ballon et pourtant ils n'ont marqué que 3 points. Ils n'ont mis les pieds dans les 20 yards adverses qu'une seule fois. Ils n'en sont donc repartis qu'avec un field goal. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette attaque des Buccaneers, Raphaël ?
Beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs individuelles, je trouve, en fait, notamment. On a vu des drops assez inhabituels, je pense notamment au drop de Mike Evans, qui est tout seul sur une passe de Tom Brady. Normalement, ça fait touchdown de 50, 55 yards peut-être, et Evans, qui est pourtant un receveur d'une fiabilité extrême d'habitude, là, fait un drop inexplicable. Il y a des passes moins précises de Tom Brady, il y a des drops d'un peu tous les receveurs qui reviennent tous un peu de blessures, qui ont des petits bobos tous un peu... des petits bobos. Bon, on a une ligne offensive moins forte que les années précédentes. Je trouve qu'il y a beaucoup de... un jeu au sol inexistant pour le moment. Leonard Fournette un peu disparu. Je sais pas, je vois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, sur Internet, du coaching staff, du coordinateur offensif Byron Leftwich. Beaucoup remettent en cause son travail. Pourquoi pas ? Ça avait bien marché ces dernières années. Après, on peut dire, est-ce que c'est pas aussi plus simple de marcher quand t'as Tom Brady ? Peut-être. Peut-être. Et quand il a un coup de moins bien, c'est plus compliqué. Peut-être. Mais pour le moment, contrairement à une autre équipe dont on reparlera après, je vois plus un problème individuel que collectif, on va dire. Et c'est peut-être en ça où je suis moins pessimiste sur les Buccaneers que sur les Packers. C'est parce que je me dis qu'il y a quand même encore la marge pour rectifier quelques erreurs individuelles.
Alors je partage, tu vois, sur les erreurs individuelles, le drop de Mike Evans, il est en début de match, il leur fait très mal. Tu disais, il est seul, précise pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, il n'y a personne à 10 yards à la ronde. Hein. C'est vraiment, il est seul, seul. Brady est à 32 sur 49 avec 290 yards. En effet, le jeu au sol est quand même sur courant très, très alternatif maintenant depuis plusieurs semaines. Hein. On n'a pas dépassé les 65 yards du côté de Leonard Fournette depuis le deuxième match hein, de la saison. Il a dépassé une fois les 100 yards, c'était en ouverture de la saison. Donc, c'est très compliqué. Après, moi justement, j'avoue que l'hypothèse du coaching, je vais pas dire qu'elle me séduit, mais je la trouve quand même intéressante parce qu'ils ont perdu Bruce Arians pendant l'intersaison. On a fait passer ça un peu pour une sorte de détail de leur intersaison. Bon, Brady est parti, il est revenu, Arians est parti. Bon, sauf que Arians, c'est quand même un coach offensif reconnu qui avait fait beaucoup de boulot dans pas mal d'équipes en tant que coordinateur, qui avait été coach de l'année, si je dis pas de bêtises, avec les Cardinals aussi pour son boulot offensif notamment. Et je trouve que ça se voit peut-être sur le 2 sur 12 sur 3ème tentative, sur le 1 sur 3 sur 4ème tentative, sur l'utilisation de certains joueurs. C'est pas forcément sur le jeu au sol parce que c'était pas la spécialité de Bruce Arians, mais je pense que l'expertise d'un coach vétéran, parce que c'est pas forcément la faute de Leftwich, mais la présence d'un coach vétéran peut-être dans ces moments-là, j'ai rien contre Todd Bowles, mais il s'était pas distingué comme étant un grand meneur d'hommes dans ses expériences précédentes, tu vois ce que je veux dire? Même s'il clashait avec Brady, et limite le fait qu'il clash avec Brady, ça a imposé un certain respect aux autres aussi, j'ai envie de te dire. Et je pense que ce manque de mobilisation, tu vois, ces dernières semaines, quand Todd Bowles dit « Ah oui, mais là, il y en a qui se reposent un peu trop sur leur laurier, il faudrait… » Bah ouais, mais c'est à toi, en fait, Pépère, de faire en sorte qu'ils ne se reposent pas sur leur laurier. Donc, il va falloir leur dire en direct. Et je pense que, à la fois tactiquement et à la fois peut-être un peu dans le leadership, Bruce Arians, il manque peut-être un peu, pour moi, je trouve, à cette équipe.
Ouais, peut-être, effectivement, sur le côté coaching, head coach… aurait pu changer la donne. Après, tu vois, là où j'ai du mal à... où je sais pas trop me positionner là-dessus sur le coaching, c'est que je trouve que dans le plan de jeu, j'ai pas l'impression que les Buccaneers en attaque jouent vraiment différemment de l'an dernier ou d'il y a deux ans quand ça marchait plutôt bien. Et voilà, encore une fois, ils ont pas réussi... Alors, là où on peut dire que c'est la faute de Byron Leftwich, c'est qu'il a pas réussi à trouver de solution pour compenser la perte de Rob Gronkowski. Que ce soit par un joueur, soit par des schémas. Là, effectivement, j'entends qu'il y a moins cette présence red zone, cette présence à ce niveau-là. Donc, on peut lui imputer ça, mais sur le reste, je sais pas. Moi, je vois pas d'énormes différences là-dessus. Donc, je suis un peu partagé sur le... J'ai pas l'impression que Bruce Arians est parti et le playbook est parti à la poubelle avec et que du coup, t'as un Byron Leftwich qui sait pas trop quoi faire, tu vois. Je sais pas. Je suis un peu partagé là-dessus. Bon... j'ai envie de dire, on n'en est même pas encore techniquement à la moitié de la saison. Ils restent en tête de leur division, bon an, mal an. Alors, c'est pas que grâce à eux qu'ils sont en tête de leur division, c'est aussi grâce aux autres qui sont en tête. Mais bon, ouais, c'est pas bon, c'est clairement pas bon offensivement, c'est une spirale très négative et c'est pour ça que j'irais presque sur l'individuel, c'est que au-delà du système de jeu, c'est plus la dynamique individuelle qui est pas bonne, quoi, l'état d'esprit qui est pas très bon.
Ouais. J'étais en train de vérifier quand même avec Bruce Arians, ils étaient sur les points marqués, ils étaient 3e en 2019, 3e en 2020 et 2e en 2021. C'est vrai que ça semble un peu inexplicable et c'est pour ça qu'on cherche un peu, c'est que c'est plus ou moins le même effectif sans Rob Gronkowski, c'est plus ou moins est-ce que Brady prend un coup de vieux, est-ce qu'il est démobilisé, est-ce que
il y a peut-être un peu de ça, il y a peut-être un peu effectivement de Brady un peu plus vieux, un peu moins précis, un peu moins peut-être bon dans ses lectures. Il a une ligne offensive, il y a eu quelques blessés en début de saison sur sa ligne offensive, donc elle est un peu moins bonne. Après, c'est pas quand même une ligne offensive catastrophique, tu vois. Donc oui, il y a peut-être un effet Brady, sans doute, parce qu'il arrive peut-être pas à compenser les problèmes de système et par son niveau à l'heure actuelle. Alors qu'il aurait besoin d'être porté, peut-être un peu plus porté par le collectif et le coaching, il l'est pas, et donc sa baisse de niveau individuel permet pas de compenser ça. Donc il y a un peu de Brady, mais pour moi, c'est pas le seul responsable. C'est un peu une faute partagée au final d'un peu tout le monde qui est un peu démobilisé.
C'est très bizarre comme ambiance. Hein. Moi, j'en reviens là.
Oui, l'ambiance est bizarre.
On est vraiment dans l'analyse à essayer de trouver des clés qui sont presque hors football parce qu'on se demande comment cet effectif quasiment similaire avec le même coordinateur offensif pioche autant. Et c'est vrai que c'est, ça m'embête, même moi, je vais te dire, de partir dans est-ce que Brady va pas bien, est-ce que son attitude joue sur ses coéquipiers, est-ce qu'il se sent pas bien dans sa vie, etc. Mais on en est presque à chercher de ce côté-là, parce que en effet, ça, ça a pas énormément changé au niveau du plan de jeu. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils auraient peut-être du mieux bosser pour s'adapter à l'absence de Rob Gronkowski, parce que tu peux pas attendre qu'il revienne tous les ans au bout d'un moment. Mais oui, c'est un mystère pour l'instant. Après, ils sont à 3-4, ils sont dans une division qui est quand même plutôt faiblarde, donc ils sont pas, ils sont loin d'être aux fraises. On va répéter, moi je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, mais c'est pas un podcast pour dire que Brady est mort, etc. On va pas le refaire à chaque fois. Il reste du temps. Ils sont même toujours leaders hein, de leur
division. Oui, c'est pour ça. Il y a quand même pas de panique totalement à bord de ce côté-là. Hein.
Mais c'est vrai que cette ambiance est quand même très très bizarre. C'est un peu crépusculaire. C'est un peu mystérieux ce qui se passe. Et c'est de là. C'est pour ça, c'est dur de dire. On peut pas dire qu'il fait la saison de trop parce qu'il est pas à la ramasse. Tu vois,
non, il est pas à la ramasse.
C'est pas un mauvais quarterback.
Non.
Donc c'est dans l'esprit, quoi. Pourquoi Mike Evans rate des ballons comme ça? Pourquoi Brady a pas l'air vraiment dedans non plus? Enfin, c'est un peu compliqué. Bon, la défense a été un petit ton en dessous de son niveau, avec beaucoup d'absence dans le backfield quand même. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher grand-chose? C'est un match où ils maintiennent l'adversaire à 21 points.
Ouais, il y a 21 points.
Il manque Carlton Davis, il manque Sean Murphy Bunting, si je dis pas
de
bêtises.
Alors c'est quand même un peu de points accordé à une attaque des Panthers qui en marquait pas plus de 14 depuis pas mal de temps.
Non,
donc,
c'est sûr.
On peut quand même un peu leur reprocher ça. Une équipe des Panthers qui venait de perdre McCaffrey et qui a perdu Robbie Anderson, vu qu'il jouait pas vraiment ces derniers matchs. Je suis pas sûr qu'il y ait un impact démesuré sur cette attaque, mais ouais, c'est disons que le problème, c'est que jusque là je trouvais qu'en ce début de saison, la défense, et notamment les 3-4 premières semaines, la défense de Tampa portait l'équipe. Si elle se met à avoir ce grain de sable comme l'attaque, ça peut vite devenir dangereux pour la suite quand même.
Pour le coup, ce qui est dérangeant, c'est qu'ils perdent sur leur point fort, qui est la défense du jeu au sol d'habitude. Et là, ils prennent un 173 yards à plus de 6,4 yards par portée.
Oui,
ils se sont fait marcher dessus, ce qui est quand même pas dans les habitudes de la maison.
Non, parce qu'en général, tu mets vite AVA au milieu de la ligne et tu bloques la course adverse et c'est pas trop compliqué. Donc, effectivement, ouais, là-dessus, il y a un petit problème en défense. Ouais.
Alors, les Panthers l'ont fait au final. 0-0 après le premier quart. Ensuite, ils ont marqué un touchdown par carton. PJ Walker est à 16/22, 177 yards et 2 touchdowns. Il a été très propre. On l'a dit, il gagne surtout au sol, 173 yards. En fait, il y a plus de courses et il y a quasiment autant de yards au sol que dans les airs. C'est leur meilleur match de la saison.
Oui.
Finalement, ils n'avaient pas besoin de Christian McCaffrey.
Ouais.
Quelle grosse affaire, hein. Tu récupères 3 ou 4 choix de draft et en plus, tu gagnes.
Non, mais après... C'est une équipe qui est pas inintéressante autour de laquelle reconstruire pour un nouveau coach l'an prochain. Il y a quand même une défense depuis le début de saison qui est solide, voire très solide, avec des joueurs de talent, des atouts. En attaque, ça manque un peu de skill player et surtout d'un quarterback, mais le nouveau coach peut reconstruire là-dessus. Le coach qui arrive à l'intersaison, il se concentre sur l'attaque et tu peux avoir une équipe assez rapidement compétitive l'an prochain. C'est leur meilleur match. PJ Walker est leur meilleur quarterback depuis sur les 7 premiers matchs. Non mais honnêtement, franchement, il fait une meilleure prestation que les autres. Bon après, je suis pas sûr qu'ils en gagnent beaucoup d'autres cette saison. Mais
t'as deux quarterbacks choisis dans le top 3 de la draft 2018 dans ton effectif et ton meilleur quarterback c'est PJ Walker. Quel enfer. Mais après, je suis d'accord avec toi. Hein. Belle base défensive, DJ Moore quand même, bon receveur.
Oui. Après, pas beaucoup en NFL actuel.
Ça fait pas beaucoup.
Va falloir étouffer un peu quand même. Hein.
Mais Donta Foreman qui peut être utile au sol, il le montre à chaque fois qu'il joue quand même. Déjà l'an dernier avec Tennessee, il avait déjà montré des trucs. T'as Brian Burns en défense, t'as Jesse Horn qui est un jeune joueur que t'as drafté cette année. Franchement, s'il tombe assez bas et qu'il sélectionne un des quarterbacks très huppés, très cotés de cette année. Bah, c'est pas un vilain poste à prendre. T'as un propriétaire qui a l'air de vouloir mettre les moyens.
Ouais, alors là, par contre, c'est peut-être ce qui m'inquiète un peu. C'est qu'un propriétaire qui avait filé 7 ans de contrat à Matt Rhule est-il quelqu'un qui peut prendre des bonnes décisions?
Ah, ça,
c'est...
après, on verra.
Et c'est
on
là
verra
le
bien,
problème, tu vois. C'est...
Ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais bon, c'est pas une équipe qui est inintéressante, hein, en
non,
effet. Donc, on verra ça par la suite. Juste un dernier mot sur les Buccaneers. Est-ce qu'on panique ou pas?
Non, moi je panique pas encore, je l'ai dit, principalement individuel, je pense que ça peut encore se corriger, et division qui va te permettre de rester a priori en course pour les playoffs, même avec quelques défaites en plus.
On ne panique pas pour les Buccaneers. Les Commanders et les Packers, ça a fait 23-21 pour les Commanders. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes profils. C'est-à-dire que tu as l'équipe menée par un quarterback vétéran qui a perdu contre une équipe qui cherche un quarterback et qui jouait d'ailleurs aussi avec un quarterback remplaçant, qui a donc créé la surprise. Donc, Aaron Rodgers, lui, panique pas. D'ailleurs, on parlait de panique, déclaration un peu lunaire, puisque après le match, il a expliqué que c'était peut-être même ce dont Green Bay avait besoin de se faire battre. Comme ça, personne ne les attendrait contre Buffalo. Alors, très bien, hein, mais si tu joues comme ça contre Buffalo, on en reparlera dans la preview. Mais bon, donc voilà. Selon lui, ils avaient peut-être besoin d'une troisième défaite de suite parce qu'ils n'avaient pas bien compris avec les deux premières. On est obligé de parler de l'attaque et d'Aaron Rodgers. Est-ce qu'il y a un problème avec lui? 47 yards seulement en première mi-temps. On a quand même été habitué avec Green Bay et Aaron Rodgers, et même avant avec Brett Favre et les autres, à beaucoup, beaucoup mieux. Il termine à 232 yards.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors là, pour moi, tu vois, c'est là où je suis un peu plus inquiet que Tampa. C'est qu'on a des erreurs individuelles. Je pense par exemple à Roméo Doux qui drop 3 ballons, dont le ballon sur 4e en fin de match. Enfin voilà, t'as des erreurs individuelles. Mais je crois qu'il y a en plus des problèmes de schéma et de coaching là vraiment plus criants que chez Tampa. Ouais. On a quand même un Aaron Rodgers qui est depuis le début de saison là, il est à 6,7 yards par passe par passe tentée. C'est son plus mauvais score en carrière depuis qu'il est starter. On a un Aaron Jones qui est sous-utilisé comme pas permis. Voilà, Aaron Rodgers croit pas en ses receveurs, hormis à Allen Lazard, mais qui s'est blessé en cours de match. Donc là, ouais, pour moi, on va au-delà de l'individuel, on va sur un vrai problème de schéma offensif, de choix offensif, de coaching, qui là me laisse très perplexe pour le coup.
Je crois qu'il y a tout ce que tu as dit, et c'est ça qui est en effet très inquiétant. Il menait 14-3 dans ce match, parce qu'en plus, il faut le dire, il commence en marquant 2 touchdowns assez rapidement. Dans le deuxième quart, il mène 14-3, et derrière, il ne met plus un pied devant l'autre. Alors, il marque à la fin, Aaron Jones fait un rapproché à la fin, hein, mais il mène 14-3, et ensuite, ils sont menés 23-14. Donc, ils prennent en fait une série de 2 touchdowns et 2 field goals qui remet Washington largement devant. Et je suis d'accord avec toi, là, pour le coup, il y a tout. C'est-à-dire que il y a Aaron Rodgers qui est revenu, on ne savait pas trop, il avait flirté avec la retraite, etc. Il est là, mais il a l'air de faire zéro confiance à ses jeunes receveurs. Alors, oui, ils font des erreurs, mais comme on voit absolument qu'ils préféreraient se faire couper un autre bras que leur lancer le ballon au bout d'un moment, c'est un cercle vicieux. Moins il a confiance en eux, moins ils auront confiance, et ainsi de suite. Donc ça, déjà, ils sont dans une galère. Ensuite, tu le disais, tu rajoutes le coach. Attends, t'as 12 courses pour 35 passes dans un match où tu mènes 14-3. T'as pas deux clampins. T'as Aaron Jones et t'as Edge Dillon. Pourquoi t'as 12 courses pour 35 passes?
Oui, non, mais il y a des choses comme ça qui posent question. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'Aaron Rodgers n'avait pas été mis en difficulté, j'ai envie de dire, par sa ligne offensive, mais sa ligne offensive l'a pas aidé, s'est fait complètement dominer là, par la ligne défensive de Washington. Il a eu peu de temps pour lancer, beaucoup de pression. C'est ça, moi, il y a cette question de schéma, il y a plein de choses qu'on voit pas dans le jeu de Green Bay. T'as un Aaron Rodgers aussi qui s'est loupé sur des lectures, on a vu au replay, il y a eu une fois ou deux, il y avait Sammy Watkins totalement libre sur lequel il aurait pu lancer pour obtenir les first down, voire presque même des touchdowns. Il y a un marasme ambiant là, et comme d'habitude, mais ça on le dit depuis 2 ans maintenant, Matt LaFleur quand ça se passe mal, on le voit jamais retourner la situation par le coaching, ça va mal jusqu'au bout, ça s'écroule et...
C'est l'anti-Chiefs, hein, on en parlera.
On
parlera des stats des Chiefs dans les remontées, mais c'est l'anti-Chiefs total. D'autant que la défense maintenant ne joue plus. Alors, je ne sais pas si elle a déjà été dominante, mais elle ne joue pas non plus totalement son rôle là-dedans. Tyler Heinicke fait un début de match très timide, et puis derrière, il est à 13 sur 16, 162 yards, un touchdown en deuxième mi-temps. Alors, je veux bien que ce soit un remplaçant correct, mais t'es Green Bay, quand tu mènes, tu ne dois pas le laisser prendre feu comme ça, quoi.
Non, effectivement, il y a un problème défensif, également avec peu de joueurs qui se mettent en valeur. Notamment, je pense au backfield défensif, dont on attendait beaucoup pour Green Bay en cette nouvelle saison. Et tout le monde déçoit du côté de Green Bay à ce niveau-là. Eric Stokes est complètement perdu. Amos, Savage, Rasul Douglas, tout ça, c'est perdu. Là, alors, on a un Jair Alexander aussi qui est pas très bon sur ce match. Je lui pardonnerai parce que sur quelques snaps, il se fait juste battre par Terry McLaurin et qui joue mieux que lui. Ça arrive aussi hein, qu'un receveur batte le cornerback en duel. Ça fait partie du football américain. Il y a des duels entre receveur et cornerback. Ton cornerback le perd, ça veut pas dire qu'il est mauvais en soi. Mais ouais, je trouve qu'il y a notamment... Moi, c'est ce backfield défensif que j'attendais bien mieux qui est en difficulté totale. Et sur la ligne défensive, en dehors de Rashan Gary, bah, il y a pas grand monde. Preston Smith s'est un peu montré sur ce match, mais pas tant que ça. En tout cas, il a disparu au fur et à mesure du match. Donc ouais, la défense conduite par Joe Barry va pas, l'attaque va pas. Et là, t'as plus l'impression que c'est une... Alors, c'est peut-être une mauvaise impression pour le coup hein, par rapport à Tampa Bay, mais là j'ai plus l'impression de voir un problème de schéma et de coaching que d'individualité. Mais bon.
Et eux n'ont pas une division aussi.
Ouais, c'est le problème pour eux.
Pas dire facile, mais en tout cas les Vikings sont à 5-1 devant. On connaît l'irrégularité des Vikings, on sait bien que ça peut changer. Je crois pas qu'ils se soient encore affrontés en plus.
Si, en toute première.
Ah, ils se sont peut-être affrontés une fois, oui.
D'ailleurs, c'est Minnesota qui l'a gagné en ouverture de saison, non?
C'est ça, oui, en effet. Victoire de Minnesota en ouverture de saison.
Donc ça fait presque 3 matchs d'écart. Hein.
C'est vrai, ils s'affronteront dans l'avant-dernier match de la saison une nouvelle fois. Mais en tout cas, il y a un vrai problème. Et là, on est plus proche de la panique à sentir le ton.
Bah, alors, à titre personnel, ouais. Et bien sûr, des fois, on peut se tromper comme ça sur des impressions aussi. Et notamment quand il y a aussi une part de dynamique de vestiaire dans lesquelles on n'est pas et qu'on ne peut pas sentir, qu'on peut pas vraiment juger. Mais de ce que je vois, ouais, moi, je suis plus inquiet quand même par Green Bay que par Tampa Bay, ne serait-ce parce que demain, Tampa Bay, je me dis, ça peut se relever avec Tom Brady qui lance à Mike Evans et Chris Godwin et Russell Gage et Cameron Bright, tu vois, pour Tampa. Demain, est-ce que la solution de Green Bay... C'est Aaron Rodgers qui lance à Allen Lazard et derrière à qui quoi. Enfin,
Mais c'est ça.
C'est là où ça me fait un peu plus peur quand même. Ouais.
Ouais, ils ont pas les joueurs pour faire tourner le truc comme peut l'avoir Tampa,
bah,
clairement.
Ça.
Du côté de Washington, on va quand même rendre un peu hommage. J'ai dit à Nicky après feu sur la fin de match. Bon, Ron Rivera a été timide dans certains choix, mais dans l'ensemble, c'était équilibré. Il y a 38 courses pour 166 yards, il y a 33 passes. Terry McLaurin, tu as parlé de lui, est monstrueux quand même. Petit hommage, peut-être minute d'appréciation de Terry McLaurin. On parle pas souvent de lui parce qu'il est dans une équipe un peu de fond de tableau, mais vrai super joueur. On va pas s'amuser à faire des classements de receveurs. Mais je t'ai vu, je sais plus si c'était sur le chat de la rédaction, dire faut libérer Terry McLaurin.
Bah, faut lui. Ouais, moi j'aimerais bien. Après, je peux comprendre. Hein, des fois, les joueurs peuvent aussi avoir un attachement à la ville qui les a draftés. Il peut se créer une attache émotionnelle. Hein, donc, je peux comprendre qu'il veuille y rester. Mais je me dis que Terry McLaurin, dans une équipe avec un bon coach et un très grand quarterback, ça tape des gros scores, quoi. Enfin, ça fait de la stat. Et je serais pas contre d'aller voir ça, mais bon, après...
Alors, pour l'attachement, je sais pas. En tout cas, il est né à Indianapolis. Voilà, je vous donne...
Ouais, bof. Actuellement, je suis pas sûr quand t'es receveur.
Ouais, voilà.
T'es sûr qu'il gagne beaucoup, quoi.
Mais il a signé une prolongation de contrat, donc a priori, c'est pas pour aujourd'hui le départ. Il a été signé.
Après, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilités de trade qu'à une époque?
C'est vrai.
Tu vois,
il faudrait qu'il le demande. 364 yards pour Washington, 232, on l'a dit, pour Green Bay. Les Packers sont à 3 victoires, 4 défaites, pas très loin des playoffs en NFC, mine de rien, parce que toute la conférence, hein, de toute façon, est à la ramasse. On va terminer là-dessus. La lutte. Bon, alors si, avant de poser cette question-là, je vais quand même dire un mot de plus sur Washington. Est-ce qu'il faut espérer est-ce que ça change vraiment l'optique de leur saison?
Non, je crois pas. Encore une fois, on a vu un match de Washington, quoi. La ligne défensive est très très forte, et quand elle arrive à dominer la ligne offensive adverse, bah, en défense, elle peut faire des coups, et ça aide la défense. Et en attaque, de temps en temps, bah, voilà, par le jeu au sol, par McLaurin, tu peux aller faire des grosses actions, aller remporter quelques matchs, mais... C'est trop inconsistant au poste de quarterback pour espérer quoi que ce soit, en fait. Donc, je vois pas très bien ce qu'ils font de mieux cette saison.
Et ils sont comme Carolina, d'ailleurs, leur meilleur quarterback n'est pas leur titulaire.
Ouais, c'est probable.
C'est un peu le même délire. Et Green Bay, ils vont être à la lutte pour le dernier strapontin en playoff. Est-ce que c'est leur niveau actuellement? Est-ce qu'ils valent ça?
Actuellement, ils valent ça, oui.
Ouais, c'est ça. Hein.
Ouais, ouais.
Et autour de ça va se battre pour la 7e
place.
Oui,
actuellement, ouais.
En NFC. eux ne vont pas se battre pour une place en playoff. Ce sont les Chiefs qui ont battu les 49ers 41-23. Alors, parce qu'après tout ça, après Rodgers, après Brady, un quarterback star qui sait ce qu'il fait, une attaque qui carbure, c'est sympa aussi. On s'est dit, on va quand même agrémenter la fin de l'émission avec un truc où ça tourne, quoi, offensivement. Donc, on va vous donner des nouvelles des Chiefs. Les Chiefs, ils étaient menés 10-0 en début de match. Patrick Mahomes et ses coéquipiers ont appuyé sur l'accélérateur. 14-13 pour eux à la pause, puis deux touchdowns dans le troisième quart, deux autres dans le quatrième quart temps pour prendre le large. En fait, ils ont été interceptés sur le premier drive, et derrière, ça fait touchdown, touchdown, field goal manqué, touchdown, 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 touchdown. Voilà. 529 yards au total. Raphaël, c'était du grand Patrick Mahomes.
Ouais, c'était du grand Patrick Mahomes, c'était du grand Chiefs, j'ai envie de dire tout court. Il y a alors on va faire, je vais essayer de pas trop faire le geek statistique pour le coup, mais il y a une stat qui s'appelle le DVOA. Je vous invite à aller sur le site Football Outsiders pour en savoir plus sur cette stat, qui te permet de mesurer à la fois les performances offensives des joueurs, mais aussi des unités. Et bref, vous verrez comment elle est calculée. Il y a des points attribués à chaque action en fait faite par une équipe et un joueur, suivant le contexte dans lequel l'action est faite, etc. Et tout ça pour dire que cette stat existe depuis 1981, et pour le site donc qui calcule cette stat, c'est la 8e meilleure performance offensive en saison régulière mesurée. Ce qui est pas, ouais, ce qui est pas incohérent quand tu vois comment ça déroule facilement derrière, comment ça gagne. Franchement, tout le monde a été bon. La ligne offensive a autorisé qu'un seul sac et avec un Mahomes très peu sous pression. On a un jeu au sol qui a bien fonctionné. On a un Mecole Hardman qui est en train de se transformer en mini Tyreek Hill. Bah ouais, c'est du Chiefs. Et quand ils sont comme ça, les Chiefs, à part Buffalo, personne ne peut les arrêter. Honnêtement, il n'y a personne qui peut répondre offensivement à ça en NFL. Donc eux, voilà. Enfin. Et en plus, j'ai envie de dire qu'en plus de cette perf offensive, en défense, t'as le duo Frank Clark-Chris Jones qui a assuré. Quand ils jouent comme ça, Kansas City, bah c'est simple, c'est top 2 NFL et c'est combat contre les Chiefs et puis voilà, enfin contre les Bills, c'est...
On parlait de comment dire de s'adapter à l'absence de Rob Gronkowski à Tampa. On parlait de remonter un déficit du côté de Green Bay. Là, il faut quand même dire que c'est une nouvelle preuve que Andy Reid est quand même un des plus grand coach de son époque.
Clairement.
Parce que lui, il a perdu Tyreek Hill. C'est quand même pas rien. Mmh. On se disait comment ça va donner cette saison. Et là, on voit, t'as un Juju Smith-Schuster à 124 yards, 7 réceptions, un touchdown. Marquez Valdez-Scantling, 111 yards sur 3 réceptions. Kelsey à droit à 6 ballons. Tu l'as dit, Mecole Hardman, 2 touchdowns au sol. Il s'adapte aussi au mode, j'ai envie de dire. Parce qu'on nous disait, oui, maintenant, on a des receveurs qui sont des multi-menaces, qui peuvent prendre le ballon dans le backfield, qui peuvent courir, etc. Je sais que même, voilà, on aime bien ça du côté de San Francisco, par exemple. Andy Reid, il est jamais largué.
C'est vrai.
Andy Reid, offensivement, il n'est jamais largué. Il est toujours dans son époque. C'est quand même une de ses grosses forces. Alors oui, il a eu des périodes où il était un peu trop amoureux de la passe ou des choses comme ça. Mais mine de rien, ça n'existe pas, le coach parfait. Ils peuvent avoir tous leur petite marotte. Mais c'est un truc de dingue. Là, peut-être qu'avec Mahomes, il a aussi trouvé l'outil, entre guillemets,
ouais,
idéal.
Oui, il est tombé sur le jouet parfait, clairement.
Voilà. Ouais. Mais ça ne l'empêche pas quand même de chercher des trucs.
Ouais,
moi, c'est,
non,
ça,
non,
que, c'est ça que je trouve admirable. Et au final, tu le disais, la ligne est impeccable. Et c'était un de leurs problèmes quand ils perdent le Super Bowl notamment. Ils gagnent dans les tranchées aussi ce match. Ils mettent 5 sacs à Garoppolo et Mahomes en prend qu'un seul.
Ouais, mais c'est encore une fois, c'est aussi à souligner parce qu'on souligne à juste titre souvent le taf d'Andy Reid et l'exceptionnalité de Patrick Mahomes. Et c'est clair. Mais mine de rien, ça taffe bien aussi dans les coulisses et le general manager parce que cette ligne offensive, tu disais, en 2 ans. Ils l'ont complètement restructuré, refondé. Hop, on fait un trade pour ramener Orlando Brown, on va chercher Joe Tunney, on draft Creedon Frey, bam, bam. On a Patrick Mahomes, il faut tout faire pour que ça se passe bien. Et hop, en 2 ans, on reconstruit une ligne offensive totalement de A à Z. Alors que t'as des franchises, t'as l'impression qu'ils mettent 10 ans à avoir une ligne offensive à peu près potable. Ça fait des coups à gauche, à droite, bref, ça s'en sort pas. Et donc ouais, ça bosse globalement bien à Kansas City et toute la franchise tire dans le bon sens et c'est pour ça que bah les imaginer pour la 5e année de suite en finale AFC, c'est clairement pas un fantasme quoi, c'est
son truc de faire 5 finales de conférence de suite, hein, on dirait qu'il l'avait déjà fait à Philadelphie. Hein.
Avec 2 franchises différentes, c'est costaud quand même. Hein. Faudra termes d'achievement Hall of Fame.
Ah ouais, ça je pense pas qu'il y en ait. Je pense que ce sera une première assurément.
Bah ouais, ça sera une première, c'est sûr. Avec 2 clubs différents, ouais.
Et ce sera dur à aller chercher. Hein. Alors évidemment, on va nous dire oui, il a gagné qu'un seul Super Bowl, mais quand on connaît la difficulté dans une ligue qui est quand même assez paritaire, 5 finales de conf, ça en fait 10 en tout avec deux franchises. Faut quand même, ça prouve quand même que tu sais un peu ce que tu fais, quoi, quand tu traces tes petits traits sur ton tableau. Là. du côté de la défense, ils prennent 444 yards, mais ils sont toujours opportunistes. Ils ont 3 ballons volés. Là encore, on est sur du chief. Ouais, hein, parce que safety, fumble, interception sur les 3 dernières possessions des Niners.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
On le sait, c'est le système Spagnolo. C'est pas une défense shutdown. C'est pas une défense qui va écraser l'adversaire. Voilà, c'est vraiment eux, c'est la philosophie. On plie, mais on rompt pas. Et il y a toujours ce petit coup de boost à un moment qui fait la différence. C'est ce qu'on voit. Franchement, c'est ce qu'on voit de Kansas City depuis 4 ans en défense. Pas de grande surprise.
Et malheureusement pour les 49ers, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit d'eux aussi quand ils ne gagnent pas. Ils n'ont pas pu vraiment mettre en place leur jeu au sol et le dérouler. Et là, tu forces Jimmy Garoppolo à lancer 37 ballons. Et ça fait des erreurs. Juste avant la mi-temps, notamment, il lance une interception alors qu'il est dans les 5 yards adverses. Et tu le vois d'ailleurs la différence avec un grand quarterback. Mahomes, juste derrière lui, il met son équipe en position de field goal pour gratter des points avant la pause.
Ouais, bah, effectivement, je trouve aussi que c'est un match très 49ers finalement. Très 49ers dans les jours où tu vois que c'est une équipe qui peut embêter quand même un gros cador parce que ça marque des points en début de match, il y a des joueurs de talent. Mais à la fin, bah, t'as ces petites faiblesses dans le backfield défensif où ça manque peut-être de joueurs et de talent, là aussi en partie à cause des blessures pour le coup. Mais offensivement, bah, c'est Jimmy Garoppolo, il peut pas suivre le rythme en fait, de Patrick Mahomes et il fait ses petites erreurs. Il y a cette passe lobée là, devant la end zone complètement débile qu'il fait. Enfin, vraiment, une passe pareille en end zone, c'est une horreur. Et voilà, et t'as beau avoir plein de joueurs capables de faire du yard après contact, Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, tout ça, bah, quand il faut que Garoppolo pousse un peu plus loin la balle, il n'y arrive pas. Et voilà, et les Chiefs leur ont mis plein de gros jeux, eux n'ont pas su faire de grands gains, et c'est la différence offensive à l'heure actuelle, c'est le plafond de verre de San Francisco en attaque.
Christian McCaffrey, 8 courses, 38 yards, 2 réceptions, 24 yards. Forcément, c'était un échantillon,
ouais,
c'était son premier match.
Ouais,
t'as trouvé ça intéressant sur l'utilisation ?
Oui, oui, moi, j'ai trouvé, et encore, je pense qu'on est vraiment qu'au début de l'utilisation possible de McCaffrey. À mon avis, tu peux t'amuser à l'utiliser dans le slot, en receveur presque, et mettre Deebo Samuel dans le backfield. Enfin, tu peux essayer de faire des trucs un peu foufou, on l'a pas encore vu. Bon, c'est le premier match. Et j'ai envie de te dire que vu le niveau en NFC, ils ont encore pas mal de semaines pour s'entraîner, se peaufiner et faire bonne figure en NFC. Quoi.
Petite stat dingue pour terminer cet épisode. Les Chiefs ont été menés de 10 points dans un match 22 fois. Ça leur est arrivé 22 fois.
Depuis
combien
quand
de fois très bonne. Je suppose que. Alors, tiens, tu m'as bien eu. Je suppose que c'est avec Mahomes.
Ouais.
Je crois que la stat, c'était époque
oui,
Mahomes.
Ça doit être ça,
ouais. Donc, 22 matchs, combien de fois ils ont gagné en étant menés de 10 points
18
Non, pas autant.
Quand même.
Pas autant.
Non,
mais 13.
Ouais,
c'est déjà bien.
Pas mal, hein. Ce qui est déjà pas
en
mal.
En effet,
hein.
le.
Ouais, 10 points.
En ayant été menés de 10 points, ils sont à 13 victoires, 9 défaites. Donc ça veut quand même dire qu'ils sont en plus que positifs si tu leur mets un handicap de 10 quand même.
Ouais, donc faut vraiment, quand tu les enterres, faut aller au-delà quoi, faut vraiment massacrer un peu plus quoi.
Ouais, faudrait voir à quel moment le bilan est équilibré, tu sais.
Oui,
par
à quel moment, genre tu passes effectivement à chaque fois Kansas City perd et donc t'es sûr de gagner si tu les mènes de plus 17 quoi, enfin oui.
Ouais, à mon avis, faut monter de pas mal de points. Bon, c'est la fin de l'épisode numéro 526. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce débrief. Bon, moi, je vais te dire, j'avais prévu de titrer sur Tom Brady, mais je vais plutôt faire sur Green Bay. Parce que ce serait un peu forcé. Si je titre sur Brady, finalement, c'est pas eux qui sont le plus en galère. Donc, on va quand même plutôt aller sur Green Bay, parce que c'est l'équipe la plus inquiétante. Et puis, on vous l'a dit, les Chiefs, c'est quand même toujours la régalade en ce moment. Il y a de tout en NFL, on en reparlera demain. C'est pas évident de trouver des équipes vraiment excitantes et régulières à la fois.
Oui, c'est ça. Parce qu'à la limite, il y a quelques équipes qui arrivent à être excitantes par moment. Ouais. Mais alors, de manière régulière. C'est un peu dur cette saison. Hein.
Ouais. On en parlera, ce sera avec Luca Vola et Grégory Richard. Vous retrouvez toute l'actu de la NFL sur tdactu.com, les réseaux sociaux du site tdactu sur Twitter, Facebook et TikTok, @touchdownactu sur Instagram. On se dit à très bientôt en podcast. Ce sera donc dès demain avec le débrief. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.